informés tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Ibrahim Bajili.
Attaque d'Inata, deux commandants de la gendarmerie relevés de leurs fonctions, le lieutenant-colonel William Kombari, commandant du groupement mobile de gendarmerie de Ouagadougou, et le capitaine Isaac Sanou, commandant de la compagnie de gendarmerie de Manga, ont été déchargés de leurs responsabilités au titre des mesures conservatoires, décision prise hier en Conseil des ministres. L'ancien président guinéen Dadis Camara est depuis hier soir à Conakry. Après près de 11 ans d'exil, il a été accueilli par une foule en liesse à sa descente d'avion. Éducation financière, de quoi s'agit-il exactement et quelle est son importance pour les élèves? On en parle avec notre invité du jour, Adé Zougouri, du cadre de concertation des associations actives en éducation de base. Bonjour madame, bonjour monsieur. Deux officiers de la gendarmerie nationale relevés de leurs fonctions au titre des mesures conservatoires. Décision prise hier en Conseil des ministres. Ces sanctions interviennent après le rapport d'enquête sur le drame d'Inata où 53 gendarmes et 4 civils ont été tués lors d'une attaque terroriste. Le lieutenant-colonel William Kombari, écrivain, président de l'US Forces Armées et membre du comité exécutif de la Fédération Burkinabé de football, commandant du groupement mobile de Ouagadougou, et le capitaine Isaac Sanou, commandant de la compagnie de gendarmerie de Manga, ont été déchargés de leurs responsabilités. Lamine Traoré.
Un peu plus d'un mois après le drame d'Inata, le président du FASO a relevé deux gradés de la gendarmerie nationale de leurs responsabilités. C'est ce qu'a annoncé hier mercredi le nouveau porte-parole du gouvernement, Kassoum Maïga, à l'issue du Conseil des ministres. Il s'agit du lieutenant-colonel William Kombari, commandant du groupement mobile de Ouagadougou, et le capitaine Isaac Sanou, commandant de la compagnie de gendarmerie de Manga. Le lieutenant-colonel William Kombari est bien connu dans le monde littéraire pour avoir publié plusieurs œuvres. Il est aussi le président de l'USFA, Union sportive des forces armées, et membre du comité exécutif de la Fédération Burkinabé de football. Le capitaine Isaac Sanou, on n'en sait pas beaucoup sur lui, mais c'est lui qui était le chef d'escadron de la gendarmerie dont relevait le détachement d'Inata, selon les propos d'Al-Kassoum Maïga. Des relèvements en lien avec le rapport d'enquête sur le drame d'Inata, qui ne sont que des mesures conservatoires selon le porte-parole du gouvernement, qui a précisé néanmoins que le président Kabore a décidé de réserver une suite judiciaire au rapport par la saisine des instances judiciaires militaires. L'attaque d'Inata dans le Sahel a fait 57 morts, dont 53 gendarmes et 4 civils, le 14 novembre dernier. L'attaque avait suscité beaucoup d'indignation au sein des populations. Plusieurs organisations de la société civile avaient réclamé la démission du président du FASO, qui avait reconnu que l'attaque est survenue à cause de nombreux dysfonctionnements au sein de l'armée. Roch Kabore avait immédiatement demandé un rapport d'enquête, rejeté une première fois car n'ayant pas suffisamment d'éléments pour situer les responsabilités. Il a finalement reçu le rapport le 14 décembre. Le président Kabore a opéré plusieurs changements au sein de l'armée. Presque tout le commandement a été renouvelé. Le président du FASO a nommé un nouvel exécutif, un nouveau premier ministre et de nouveaux ministres. Un gouvernement dit resserré de 25 membres est à la tâche.
Le Conseil des ministres d'hier a également été l'occasion pour le gouvernement de donner sa position sur le report ou non de la CAN 2021. Plusieurs informations reliées ces derniers jours sur les réseaux sociaux indiquaient que l'ancien président de la FBF, Sita Sangaré, membre du comité exécutif de la CAF, a milité pour un report ou une annulation de la compétition lors de la réunion de dimanche à Doha. Le gouvernement burkinabé dit rester solidaire du Cameroun dans la tenue effective de la CAN 2021 à bonne date. Al-Kassoum Maïga est le porte-parole du gouvernement.
Nous avons profité pour relever le fait qu'effectivement, il y a eu des débats autour d'une prise de position du Burkina par rapport au report de la CAN. Donc le ministre du Sport a relevé que ni le ministère ni la Fédération Burkinabé de Sport n'est mêlée à ce report-là. Et donc, le Burkina reste solidaire du peuple camerounais par rapport donc à la tenue de la CAN. Donc, les Italiens seront au rendez-vous et on profite pour féliciter l'État camerounais pour l'hébergement de la CAN et pour les efforts qui ont été réalisés pour pouvoir faire en sorte que la CAN se tienne à bonne date le 9 janvier.
Le match d'ouverture de la CAN 2021 opposera le 9 janvier prochain au stade d'Olembé les Lions indomptables du Cameroun aux étalons du Burkina. Kamoumalo, l'entraîneur national, dévoilera tout à l'heure à partir de 9h sa liste de joueurs convoqués pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Les étalons s'envoleront ensuite dimanche pour Doha au Qatar où ils vont peaufiner leur préparation avant le début de la compétition. Une préparation qui sera ponctuée par quelques matchs amicaux. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina pilote le programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest volet Burkina Faso. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités 2021 du programme, la Chambre a tenu son deuxième comité de revue du programme budgétaire. Pour ce faire, l'unité de coordination a fait le point de réalisation des activités et validé le programme 2022 à Ouagadougou ce mercredi après-midi. Le projet soutient trois filières, à savoir le miel, l'énergie solaire et l'huilerie. Pour 2021, le taux d'exécution est de 90% selon Seydou Namanigé, chef du projet. Il est au micro de Mouniaro.
Il y a des accompagnements par rapport à des formations, il y a des subventions. Si on veut parler pasticulture, si on prend les apiculteurs, il y a eu des subventions pour l'acquisition de kits apicoles. Il y a eu aussi des appuis pour des formations, des sensibilisations. On les a accompagnés aussi à se structurer pour la formalisation de l'interprofession. Au niveau de l'énergie solaire, il y a aussi des appuis pour des mises à niveau. Des centres de formation ont été accompagnés avec des matériels pédagogiques pour les accompagner aussi à mieux prendre en charge les activités de formation. Il y a aussi des bourses scolaires. On a accompagné aussi par rapport à des étudiants qui vont développer des thèmes au fil de l'année. Il y a également aussi des formations pour une mise en place d'un cluster solaire. Et puis aussi structurer aussi les membres à travers plusieurs associations, les vendeurs à part, les commerçants, les installateurs, ainsi de suite. La perspective qui se dégage, c'est de voir comment vraiment diminuer les problèmes d'activité jusqu'à la fin. Et aussi pouvoir faire en sorte que les appuis puissent atteindre les bénéficiaires directs.
Le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales, SPONG, en collaboration avec les acteurs gouvernementaux du secteur privé et de la société civile, ont uni leurs forces pour contribuer à la création d'emplois décents des jeunes et des femmes intitulé Projet Golima. L'atelier de validation du dit projet s'est tenu ce mercredi 22 décembre 2021. L'objectif général de cet atelier est de contribuer à la finalisation du processus de formulation de l'initiative présidentielle de création d'emplois décents pour les femmes et les jeunes. Compte rendu de Saouda Kafando et de Charlada.
Créer au moins 600 000 emplois décents pour les jeunes et réadapter le système éducatif en fonction du monde professionnel est l'objectif du gouvernement, des acteurs de la société civile et les secteurs privés. Cette initiative est l'une des priorités des 10 axes du programme présidentiel de Roch Kaboré. Sylvestre Thiem-Touré, coordonnateur du SPONG.
À partir de cet atelier, disposer de ce document du programme Golima sur l'initiative présidentielle de création de 600 000 emplois, c'est, comme il a dit, c'est déjà le mettre à la disposition du gouvernement qui sera le destinataire final parce que la société civile accompagne le gouvernement dans ses efforts donc, de résolution de la problématique de l'emploi des jeunes. Et dans le processus, dans le scénario qui est prévu, c'est un programme multi-acteur où vous aurez à la fois les acteurs étatiques, la société civile et le secteur privé. Et chacun va jouer sa partition pour qu'ensemble, nous puissions fédérer les efforts, agir de façon synergique. Et le gouvernement, en tant que leader, va mettre l'environnement favorable pour que l'ensemble de ces trois acteurs puissent, dans une action intelligente, participer donc à la création de 600 000 emplois au grand bonheur de nos jeunes.
Des études ont été parallèlement réalisées sur les créneaux à fort potentiel de création d'emplois. Jean-Philippe Dakouré, ancien secrétaire général du ministère en charge de la jeunesse et de l'emploi.
Le domaine agro-sylvo-pastoral et halieutique est un domaine où il y a un potentiel important de création d'emplois. Il y a le domaine aussi des TIC, qui est aussi un domaine qui a un fort potentiel de création d'emplois, et y compris le domaine des services au sens de la comptabilité nationale.
À l'issue de ces échanges, un document prenant en compte les contributions des acteurs du développement économique et social sera remis au chef de l'État pour validation.
En Côte d'Ivoire, au moins 8 morts et 35 blessés dans un accident mercredi. Une collision entre un bus et un camion à 46 km de Gagnoa a annoncé le gouvernement ivoirien. Les 35 blessés sont hospitalisés au CHR et à l'hôpital général de Gagnoa. D'autres blessés ont été accueillis dans les centres de santé de Galébré et Lilio, selon le communiqué du gouvernement. Le capitaine Moussa Dadis Camara est rentré à Conakry ce mercredi 22 décembre après une dizaine d'années d'exil. Son avion en provenance de Dakar s'est posé vers 13h sur le tarmac de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry. Il est sorti de l'aéroport autour de 14h, sa voiture se frayant difficilement un chemin au milieu d'une foule en liesse, rapporte Radio France Internationale. Ce retour intervient quelques jours après celui de l'ancien président de transition, Sékouba Konaté. Les cinémas et autres salles de spectacle seront fermés en Belgique à compter du dimanche 26 décembre afin d'endiguer la propagation du variant Omicron du Covid-19, a annoncé mercredi dernier le Premier ministre Alexander De Grou au cours d'une conférence de presse.
Omega Sport.
En attendant de connaître le groupe étalon qui sera à la CAN, le Cameroun, pays hôte de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football et premier adversaire du Burkina, a dévoilé sa liste de 28 joueurs sélectionnés pour disputer cette CAN ce mercredi 22 décembre. Le sélectionneur Tony Conceição n'a pas livré de grosses surprises, même si de nombreux fans espéraient un retour en équipe nationale du défenseur de Liverpool, Joël Matip. Le portier Fabrice Ondoa, sans club, n'est pas davantage présent. C'est un groupe jeune qu'André Onana, André Franck Zambo Anguissa, Vincent Aboubakar, Eric Maxime Choupo-Moting et Karl Toko Ekambi devront conduire durant cette CAN 2021, tant attendu. Les Lions Indomptables affronteront les étalons du Burkina le 9 janvier, l'Éthiopie le 13 janvier et Cap-Vert le 17 janvier dans le groupe A. Supercoupe de la Confédération africaine de football à la Lille se succède. Au terme d'un grand match, l'équipe Kérote remporte la Supercoupe de la CAF en disposant du Raja de Casablanca après les tirs au but menés pendant 77 minutes. Le vainqueur de la Ligue des Champions CAF fera son retard avant de s'imposer au tir au but 6 contre 5. Après 2002, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014 et 2020, il s'agit du 8e sacre des Diables Rouges dans la compétition, ce qui leur permet d'améliorer leur propre record.
L'invité du jour.
L'invité du jour.
L'invité de la rédaction est monsieur... Voilà. Éducation financière, de quoi s'agit-il exactement et quelle est son importance pour les élèves? On en parle avec notre invité du jour, Adé Zougouri, du cadre de concertation des associations actives en éducation de base. Il est interrogé par Bernabé Cabré.
Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'il faut entendre par éducation financière?
L'éducation financière est une approche visant à donner des compétences de bonne gestion des ressources aux individus. Cette éducation financière a des objectifs, et ces objectifs ici, c'est de comprendre et organiser l'épargne, de savoir planifier et aussi être capable de créer des entreprises rémunératrices de revenus ou encore mettre en place des entreprises à leur âge, bien sûr, des entreprises adaptées à leur âge, puisque nous sommes dans le domaine, quand nous parlons d'éducation financière en termes d'entreprise dans le milieu scolaire, c'est vraiment voir qu'on ne prend pas l'entreprise dans la taille comme nous le voyons souvent. C'est vraiment voir des activités adaptées à l'âge de l'enfant qui peut lui donner une certaine autonomie financière.
Quel genre d'activité, par exemple, hein, en fonction de l'âge des différents élèves?
Nous mettons les élèves en club. Avec les clubs, ils s'organisent pour mener ces différentes activités-là. Et comme exemple d'activité, ils peuvent, par exemple, faire des activités de jardinage. Quand ils font leur production, ils peuvent vendre. Et en vendant, ils peuvent quand même alimenter la caisse de leur établissement. Ou encore au niveau de l'établissement, voire organiser les élèves pour qu'ils aient un petit kiosque et gérer ce kiosque-là de façon rotative, en passant par des groupes de personnes qu'on met chaque fois au niveau du kiosque pour assurer la gestion. Donc voilà des entreprises, des exemples d'entreprises que je peux citer. Quand on voit, par exemple, l'activité de jardinage, elle est en même temps une activité sociale et financière. Sociale, pourquoi? Parce que la production du jardin peut être utilisée pour améliorer la cantine scolaire. Et aussi, avec le surplus vendu, ils peuvent alimenter la caisse de l'école. Et cette caisse alimentée va servir en tout cas à prendre soin de ces enfants-là sur plusieurs plans, soit aider ceux qui sont moins nantis ou bien créer une valeur ajoutée à l'école, une bibliothèque, une caisse à pharmacie. Donc voilà l'utilité de vraiment motiver les enfants au sein des établissements à avoir des activités qui donnent du revenu et aussi qui leur apportent un plus dans la vie sociale entre eux. Parce que pour gérer cette entreprise-là, il faut qu'ils soient vraiment des enfants capables de se comprendre. Et ça leur apprend en même temps des actions de démocratie.
Est-ce que cette éducation financière a déjà été expérimentée dans certaines écoles?
Nous l'avons expérimentée en 2018 dans plus de 39 écoles, établissements formels et 23 centres. Plus de 5039 bénéficiaires sont sortis de cette première phase d'expérimentation. À la fin, nous avons eu une évaluation. C'était vraiment promoteur.
Vous avez dit que le jardinage, par exemple, hein, rassemble les deux, éducation financière et éducation sociale. C'est dire qu'il y a un lien entre les deux.
Il y a un lien entre les deux. Comme ils sont à l'école, nous essayons de voir une activité qui réellement peut montrer qu'on peut avoir des revenus tout en étant un bon élève. Les gens peut-être souvent se posent la question, comment un élève en classe peut encore prétendre à exercer des activités commerciales? Et il faut vraiment le voir, le vivre pour comprendre que en fait, ça devient même le côté pratique de ce que nous enseignons aux enfants. On les apprend à calculer sur dans les cahiers. Mentalement. Mais quand l'enfant va ouvrir son propre commerce, gérer son propre argent, ça se fait. C'est la raison pour laquelle on a eu la certitude que ça donne une valeur ajoutée qui n'est pas prise en compte dans nos anciens programmes. C'est des actions qui sont menées, qui sont vues par les parents, cautionnées par l'administration. Ils savent la valeur ajoutée et il y a des vieux même qui disent que s'ils avaient eu la chance de rencontrer ce programme-là à leur jeune âge, ils n'allaient pas être ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est vrai qu'on met le nom des enfants dedans, mais vous allez voir que dans le fond, l'adulte même a plus besoin de cette éducation financière-là. Pour dire que ce sont des entrepreneurs que nous préparons. L'école n'est plus réservée à juste donner des connaissances non applicables. Maintenant, on veut que les connaissances-là soient pratiques. Et c'est cette pratique-là que nous laissons voir à travers la mise en place d'entreprises gérées par les enfants.
Merci à vous d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Merci à vous.
C'est la fin de cette édition réalisée par Bourema Maïga. Merci de l'avoir suivi.
Radio Omega, l'info en direct.
Vous êtes témoin d'un fait, d'un événement. Vous avez assisté à une situation dans votre quartier ou dans un endroit quelconque. Vous détenez une information digne d'intérêt. Contactez la radio de l'info au 63 13 82 82 ou au 63 63 72 72. Faites de Radio Omega le témoin privilégié des faits dont vous êtes témoin. Omega, l'info en temps réel.